Nous avons déjà commencé les cultes d'été. Ça se voit. Certains sont en voyage, d'autres sont déjà de retour. Nous arrivons dans la période la plus creuse de la vie française pendant une année. C'est le mois d'août. Voilà. Et déjà dimanche dernier, c'était Françoise qui nous a conduits dans un psaume, le psaume 139. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer pendant les mois d'été de parcourir quelques psaumes. Et le premier psaume nous ouvre finalement la porte à la compréhension et au message que finalement les psaumes veulent nous transmettre. Et le thème, c'est mon choix. Bon, premièrement parce que j'ai choisi d'en faire une prédication. Mais j'aime bien son titre, Heureux l'homme, heureux l'homme. Bon, heureuses les femmes, pareil. Donc, homme qui s'écrit avec un H majuscule. Et j'ai donné comme titre, tu pourrais continuer là. Heureux l'homme qui choisit bien. Heureux l'homme qui choisit bien. Et j'ai deux tableaux pour faire la lecture de ce psaume et je vous invite, si vous pouvez lire, de commencer avec le premier tableau.
Ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, il a réussi. Voilà. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la mort.
Merci. Voilà le texte. C'est mon choix. C'est une émission à la télé française qui cherchait à justifier tous les choix possibles qu'on pouvait se donner pour sa propre vie. On a vu des curiosités. Chacun choisit et surtout demande de ne pas être critiqué par rapport à son choix. Néanmoins, comment choisir? La grande question est que choisir? D'ailleurs, ce n'est pas la pub, hein, que choisir, c'est une simple question. C'est mon choix, l'homme, heureux l'homme qui choisit bien. D'ailleurs, cette expression avec laquelle le psaume commence, ça me fait tout de suite penser au début de l'évangile. L'évangile selon Matthieu. Heureux. Heureux, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça sonne pas un peu les béatitudes? Cet enseignement que Jésus a donné sur une montagne en Matthieu 5 à partir du verset 3. Voilà 8 vertus que Jésus a exaltées sur la montagne dans sa prédication. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Voilà un. Je ne sais pas comment vous allez vous reconnaître dans ce heureux. Est-ce que vous êtes heureux que spirituellement vous comprenez pas tout, que votre foi est simple, que votre foi est confiante, tout simplement sans comprendre parfois davantage. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres, car le royaume leur appartient. Normalement, avec un mauvais examen ou avec la moyenne, on n'obtient pas finalement le concours. Mais ici, c'est la grâce de Dieu qui dit, qu'importe ta foi, sa puissance, sa valeur, son poids, si tu as foi et confiance en moi, tout simplement, le royaume des cieux t'appartient. Heureux ceux qui pleurent. Et nous avons bien pleuré les derniers mois, les dernières années. Certaines familles et personnes étaient très, très touchées Et je peux vous dire aussi au sein de notre propre famille, je me rappelle un coup de téléphone il y a une semaine et demie avec notre fille, concernant notre fille Mike, on a bien pleuré, Imke et moi, parce que c'était une situation bien difficile qu'elle vit. Heureux ceux qui pleurent, personne n'aime pleurer à cause d'une souffrance, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas masos quand même. Mais le mot heureux qui pleure, c'est dit parce que il y a une consolation qui accompagne nos pleurs. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Ou ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Et on pourrait continuer. Heureux, heureux, heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Y a des heureuses parmi nous? Je suis déjà un mal heureux. Donc le heureux voudrait dire c'est un état de bonheur, de sentir, ressentir un bonheur parfait. D'ailleurs, il y a aussi un dicton, plonger dans une douce béatitude. Bon, ça se dit un peu moi, mais ça se lit. Heureux qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui sont en marche. Pas avec Macron, vous avez votre parti, votre préférence politique, qu'importe, mais au moins soyez en marche à la suite de Jésus. Ce qu'on vient de chanter et ce que Marie nous a tellement bien expliqué, que nous marchons dans notre foi avec Jésus. Et pendant cette marche, on découvre notre foi et on découvre Jésus davantage. Jésus nous fait marcher. Bon, c'est aussi une expression. Mais là, positivement, Jésus nous fait marcher les personnes qui ont des difficultés, qui sont emboîtées. Jésus a fait marcher les boiteux dans les évangiles. Il a pris pitié et il a guéri leur handicap. Matthieu chapitre 15. Jésus a ressuscité une fille de 12 ans qui était morte, et après l'avoir ressuscité, elle marchait avec lui. Un homme paralysé à Bethsaida, ceux et celles qui ne pouvaient pas marcher auparavant auront désormais la force et la capacité de marcher de nouveau. Marcher de nouveau, c'est aussi marcher peut-être sur un chemin nouveau, sur un chemin spirituel, sur un chemin sur lequel nous accompagnons Jésus. Et cette expression, celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Vous connaissez des méchants? Ouais, je vois une tête qui hoche légèrement. On préfère de ne pas les connaître. Finalement, personne ne les aime, les méchants. Heureux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Donc, qui sont ces méchants, d'ailleurs, sont toujours les autres. C'est clair. Jamais nous-mêmes. Donc, dans le texte des psaumes, il s'agit des gens qui n'ont ni foi, ni qui observent la loi. Des gens sans foi ni loi. Et la traduction œcuménique, la Tobe, dit même des gens méchants, ce sont des railleurs. Des railleurs. Ceux qui se moquent des justes, de ce qui est juste, qui aiment le sarcasme, qui se moquent de tout. Des railleurs qui peuvent d'ailleurs devenir des dérailleurs. Dérailler la chaîne de bicyclette. Je ne sais pas combien de chaînes de bicyclette j'ai remis en place pour mes filles. Donc quatre bicyclettes, vous pouvez vous imaginer, toujours les mains noires, n'est-ce pas? Ou faire dérailler un train. Cela a tout de suite une conséquence. On se perd sur le chemin. Dérailler, écarter, s'écarter du bon chemin, s'écarter du bon sens, mais aussi déraisonner, se trouve dans ce mot dérailler. D'ailleurs, il ou elle déraille drôlement, dit-on. Heureux qui n'assit pas en leur compagnie, ou on pourrait dire, choisissez bien vos amis. Vous avez des amis? Vous avez des amis? Bon, ok. Vous avez un ami? Vous aimez bien avoir un ami. Ok. Heureux qui ne s'assoit pas en leur compagnie. On pourrait dire, attends, choisis bien tes amis. Il est important d'avoir des amis autour de soi dans toute sa vie. Malheureux, toutes les personnes qui n'ont pas d'amis. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai aussi des amis sur Facebook. Bon, sans d'autres amis. Mais j'ai la chance d'avoir deux amis que je considère pour moi-même les meilleurs parmi tous mes amis. Mon meilleur ami. Toutefois, il s'agit bien évidemment des vrais amis sur lesquels on pourrait toujours compter. Et on dit, c'est dans la misère que tu vas reconnaître les amis. Et comment on les reconnaît? Ce sont les seuls qui sont toujours là quand tu es dans la misère. Quand tu es dans la misère, tu regardes autour de toi qui est encore là pour t'encourager, pour pleurer avec toi, pour s'épauler, si c'était possible. Ce sont là les vrais amis. D'autre part, contrairement à la famille et contrairement aux collègues au travail, au moins on peut choisir ses amis. Pour cela, vous devez procéder par sélection. Ne choisis pas n'importe qui et ne dites pas trop vite « ami ». Faites une sélection. Choisissez bien qui vous nommez « ami ». Pour que vous puissiez attirer les meilleurs amis qui vous veulent du bien. Ça, c'est le propre de l'ami. Un ami veut ton bien. Bon, on peut aussi avoir des moments durs, mais le but de l'ami, c'est ton bien, que mon ami aille bien. Quelle valeur chercherez-vous chez un ami? Vous devez d'abord savoir avec quel genre de personne déjà pensez-vous partager une amitié sincère. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, et vous l'avez déjà remarqué dans votre vie. Pour avoir une idée des individus qui pourraient correspondre à vos attentes, vous pouvez faire une petite liste des qualités que vous aimeriez bien trouver chez vos amis afin que votre relation se trouve bien sur une même longueur d'onde. C'est là où on trouve des amis. Donc, d'après vous, quelles qualités devrait, à vos yeux, avoir votre ami? La franchise, ok? Pas encore. La qualité d'un ami digne de ce nom.
L'honnêteté.
L'honnêteté. Quoi encore? Ok, donc on vient assez rapidement ami avec
être
vous.
Être là,
ok. Voilà. Avoir une présence. La fidélité. Amitié dans la durée. Oui, écoute. Malgré que vous ayez plusieurs contacts d'amitié sur le net, rien ne vaut des vrais amis dans la vie réelle. D'ailleurs, en Éphésiens chapitre 5, versets 7 à 16, je prends un extrait. N'ayez donc de commun avec ces gens-là. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Prenez bien garde à leur manière de vivre. Si tu cherches un ami, il doit correspondre aux valeurs qui sont les tiennes. Dans nos jours, par quelle manière notre vie en tant qu'enfant de Dieu est influencée par les amis qui nous sont proches ou par les personnes qui nous sont proches? Leur style de vie, leurs convictions philosophiques, politiques ou autres. Par quelle manière suis-je déjà invité, sinon obligé, à marcher selon leurs principes? Leurs principes qui ne correspondent pas aux principes de ma foi chrétienne. Avez-vous déjà fait l'expérience que votre vie spirituelle a été infectée par certains mauvais choix des personnes qui vous entourent? Ou même des personnes que vous appelez vos amis? L'image de l'arbre est utilisé dans ce psaume un arbre qui porte du fruit. Donc vous voyez, ce sont des fruits un peu exotiques qui ne poussent pas forcément sur un arbre, mais cette image m'a beaucoup plu parce qu'il y a plein, 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 plein de fruits. Il s'agit d'une personne qui prend sa joie, dit le texte biblique, qui trouve son plaisir à méditer la parole de Dieu. Parfois, je me contente de la lire. Méditer, c'est déjà un niveau supérieur, où ça va en profondeur. Tout dépend où vous voulez mettre la direction. Cette méditation a pour but que la parole que je lis produit en moi-même un effet. Ici, c'est imaginé comme un fruit qui pousse, qui produit ses fruits. D'ailleurs, il y a le psaume le plus long dans le livre des psaumes, le psaume 119, où le psalmiste s'émerveille de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, au moment où l'Église commence à se constituer, qu'est-ce qu'on lit des premiers chrétiens? Ils aimaient se rencontrer entre eux, en invitant encore bien d'autres qui s'ajoutaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bouffé ensemble et ils ont ouvert la Bible pour la lire. Tous appliqués fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient des apôtres. Et l'apôtre Paul va dire en Romains chapitre 10, verset 17, la foi en Dieu va naître de son message que nous entendons. C'est là où va naître la foi, à travers la parole que nous lisons et qui commence à nous parler, et voilà, on l'écoute. Et si pendant ces mois d'été, je ne sais pas, vos préoccupations, certains disent, voilà, j'ai un pilier de livres que je voudrais lire, voilà, c'est mon cas, et si on méditait peut-être le psaume 119 ou un autre livre dans la Bible que vous chérissez. Voilà le mot méditer. Méditer voudrait dire penser, célébrer, soupirer, murmurer, annoncer, publier, parler et proclamer. Ça me fait penser à Josué en chapitre 1er, verset 8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce que tu y trouves écrit. Alors, ça c'est un mot dans nos textes attire toute notre attention parce qu'il y a des conséquences après. Alors, tu mèneras à bien tous tes projets et ils vont réussir. Alors, si j'aime voir quelque chose dans ma vie, que c'est mes projets qui réussissent. Il y a aussi le mot qui me gêne un peu, c'est méditer jour et nuit. Déjà, la nuit, je dors. J'aime dormir. Une journée, c'est longue. Prendre la parole de Dieu et la lire longuement. Je ne voudrais pas dire que ça fait partie de mes réflexes. Mais une fois que j'ai commencé, j'ai du mal à m'arrêter. Je ne sais pas comment ça va chez vous. Quand je prends ma Bible, dès que je la lis, je prends plaisir. Mais je dois me donner aussi rendez-vous de l'ouvrir. Ce n'est pas un livre qui s'impose de vouloir s'ouvrir devant nos yeux. Elle nous invite en disant, voilà, je suis là, prends-moi. Ouvre-moi, tu connais les pages, tu connais peut-être des passages que tu aimes bien. Donc, méditer jour et nuit voudrait dire pendant la journée ou journellement, tous les jours, dans la nuit, à minuit, quand ça fait noir. Depuis un certain temps, je me réveille, je dois me réveiller plusieurs fois dans la nuit. Parce que je dois faire pipi. Bon, vous êtes encore jeune, hein, pas de souci, ça va vous arriver à vous aussi. Et une fois recouché dans mon lit, je ne peux pas m'endormir de nouveau, hein. J'attends le moment où je resterai tellement réveillé que je vais me dire, je vais me lever et je vais prendre ma Bible pour lire. Parfois, je l'ai fait, mais ça peut devenir encore davantage. Cette personne va prospérer. Oh, prospérer, je préfère aussi. Ça fait partie des bien mots que j'ai chéri bien, quoique c'est très modéré chez moi. Le petit Robert dit, c'est un état d'être, être dans un état heureux, prospérer. Ah tiens, je croyais que c'est une question de sous. Non? Non, c'est un état heureux. C'est devenir, se développer, progresser dans une voie du succès. Mais le succès, là non plus, c'est pas de la monnaie. C'est de ce que tu considères, ce que tu souhaites être le succès de ta vie. Faire fortune heureuse, augmenter des richesses. Et richesse peut être très très variée. Ça peut être de l'argent, je n'ai rien contre, mais une vie riche ne se monnaie pas. C'est dans un autre sens positif que le psaume nous propose de prospérer. C'est presque l'évangile de la prospérité, mais dans un sens positif. Et puis l'image d'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Voilà une personne avec des pieds dans l'eau, dirait-on. Avoir des racines plantées dans l'eau, à la source même, ou près d'une source. Dans la Bible, l'image de l'eau vive est un symbole de la vie nouvelle, de la vie tout court déjà, mais de la vie nouvelle, d'un renouvellement, et même d'un renouvellement spirituel. Jésus dit en chapitre 4, verset 10, si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui-même une source qui jaillira à la vie éternel. Et c'est exactement cette même image de l'eau qui fait vivre, et qui fait vivre et porte du fruit. Dans l'Ancien Testament, chez le prophète Isaïe, nous lisons en chapitre 58, verset 11, tu ressembleras donc à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux eaux intarissables. Et un autre prophète, Jérémie, cette fois-ci, chapitre 57, verset 5 et suivant, mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà les images qui se retrouvent ici ou là dans la Bible. Et qu'est-ce que fait cet arbre qui réussit bien à porter du fruit? Voilà, les fruits reviennent saison après saison. Il n'est pas question que l'arbre portera toujours du fruit à tout moment de l'année. Mais il y a une régularité et on peut s'attendre qu'il va faire pousser des fruits. En Matthieu chapitre 7, nous lisons, un bon arbre produit des bons fruits. Et un arbre malade, d'après vous? Ah, des mauvais fruits, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 12, on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. C'est devenu même un dicton. En Galates chapitre 5, à partir du verset 20, nous lisons que les œuvres, ce que notre vie produit, est comparé à des fruits de notre chair, de notre nature humaine. C'est-à-dire, dit l'apôtre Paul, l'inconduite, l'arbre naturel que nous sommes, mauvais que nous sommes en tant que humains sans Jésus, c'est l'inconduite, l'immoralité, la mauvaise conduite selon le plan moral, une inconduite scandaleuse, et peut-être vous connaissez des personnes qui vous ont scandalisé, ou qui ont scandalisé d'autres par leur manière de vivre. Comme mauvais fruit, il y a aussi l'impureté, les pratiques dégradantes sur le plan moral se corrompre. La débauche, les excès sur le plan des plaisirs sensuels, d'être libertin ou vivre dans la luxure. Des mauvais fruits que les arbres portent normalement, c'est l'idolâtrie, dit le texte de Galate. Le culte rendu à l'image d'un Dieu, et là Dieu s'écrit avec un minuscule comme vous pouvez vous imaginer. Nous commençons à idolâtrer quelque chose qui prend la place, la première place de notre vie. Un amour passionné, une adoration outrée, un culte d'une personne ou d'une chose qui va jusqu'à l'idolâtrie. Parmi les mauvais fruits que, en tout cas, je ne voudrais pas porter dans ma propre vie, il y a aussi la magie. Les sciences occultes par lesquelles on produit des phénomènes pas expliqués, les X-Files, hein, quand on a connu une série. Mais plus sérieusement, on parle là de la magie blanche ou dans la magie noire. C'est qu'importe, c'est toujours la magie devant. Ou de la sorcellerie. D'ailleurs, nous avons vécu dans la ville de Nevers, en Bourgogne, et juste à côté, c'était la région du Berry, qui aujourd'hui se revendique d'être la région de la sorcellerie en France. Il y a aussi l'astrologie, comme mauvais fruit que pouvait porter une vie. D'ailleurs, avez-vous déjà vu et lu votre horoscope? Ah non? Ah non? Quand j'étais jeune employé, mon premier emploi, j'étais dans un département dans l'entreprise où il y avait une femme qui commençait sa journée avec une tasse de café et à ouvrir le journal en lisant son horoscope. Elle la lisait à haute voix. Et puis, elle demandait autour d'elle, c'est quoi ton signe? Et c'est quoi ton signe? Et puis, elle a lu l'horoscope pour tout le monde. Et puis, ça tombait sur moi, en dernier. Et c'est quoi ton signe? Je dis, c'est Aaron, c'est un Aaron. Pour pas dire poisson. Voilà. Donc, j'ai dit, non, c'est pas la peine que tu me lises parce que j'y crois pas. Je suis croyant, mais pas à ce point. Certains lisent leurs horoscopes en quête de sens. Je comprends pourquoi ça en a un intérêt. Et aucun journal aujourd'hui peut se permettre de ne pas publier un horoscope. Parce que ça fait partie, c'est peut-être les premières pages qui sont ouvertes pour être lues. En quête de sens, on cherche quelque chose dans leur vie. Parce qu'on est amoureux ou on n'est pas amoureux, plein d'espoir ou pas d'espoir. On a des ennuis, on cherche de l'emploi, on cherche à comprendre les malheurs qui nous tombent sur la tête. Et dans les moments difficiles, grâce à lui, à l'horoscope, voilà, on se projette provisoirement dans un avenir plus souriant, parce qu'on comprend le mal. Je vais mal, mais je vais aller mieux dès que Pluton aura quitté mon ciel. Nos difficultés aussi acquièrent un sens. Ça va mal parce que je suis poisson. Mais moi, je suis poisson. Et qu'est-ce que je dois lire? Que les poissons sont destinés à souffrir. Surtout ceux qui sont en troisième décan. Ne me demandez pas où c'est. Hein? Mais si cela arrive, les poissons vont souffrir. Donc chaque fois quand j'ai mal, je dis, c'est probablement dans un écran. Voilà. Et puisque c'est Saturne et Mars qui bloquent, voilà, je me sens déjà moi responsable de ce qui m'arrive, ce qui est vrai, un vrai soulagement, grâce à l'horoscope. Mais c'est regarder des astres et chercher une interprétation, ça s'appelle l'astrologie. Et la Bible dit que c'est un des mauvais fruits parce que ça nous déraille. Ça fait nous dérailler par rapport à notre foi et notre regard qui doit rester fixé sur Jésus. Sur Jésus. Voilà, on pourrait parler du culte des morts, de l'ésotérisme dans toutes ses formes, des hostilités et des haines, de la discorde et des querelles, toutes ces mauvais fruits pourris qui pourrissent notre vie. Et puis, comme mauvais fruit, on trouve aussi de la jalousie, ce sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant qu'un autre va mieux que moi. C'est injuste. Il possède quelque chose que moi je voudrais posséder, que je n'arrive pas à posséder. C'est pas juste. Il y a aussi des rivalités d'intérêt, de la concurrence et de la mauvaise compétition là où elle est non sportive. Mais il y a aussi l'ivrognerie, se mettre à l'état d'ivresse, se saouler, plonger dans l'alcoolisme. Ces choses semblables, la liste pourrait être longue. Et l'apôtre Paul conclut, je vous préviens, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourtant, nous le voulons. C'est le but. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Mais le texte continue. C'est le fruit de l'esprit. Mais je crois, voilà. Donc, dans la même lignée, à partir du verset 22, nous trouvons des fruits que moi, je voudrais porter dans ma vie. Peut-être, tu prendrais plaisir et tu le souhaiterais de la même manière de voir de tels fruits pousser dans ta vie. Et le premier fruit tout au numéro un, incontesté, c'est le fruit de l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est l'inclination de mon cœur envers une personne que j'aime. Voilà, elle est juste en face. Aimer avec passion. Vivre un grand amour. Et voilà, je le fais. C'est très chouette, très agréable. Au plus général, la disposition de vouloir le bien à une personne qu'on aime. Si tu te demandes qu'est-ce qui est la raison d'être de ton mariage ou de ta vie, que les gens te fassent du bien, tu dirais? Le sens de ton mariage, détrompe-toi. Tu es là pour faire du bien à la personne que tu aimes. Tu es là pour faire du bien à la personne que tu aimes. Il y a aussi la joie et le bonheur, l'émotion agréable et profonde, se réjouir. C'est la joie de te voir. Je crois que c'est comme ça que je t'ai salué hier quand tu es rentré dans la maison. Des moments de bonheur et de joie. Il y a aussi le fruit de la paix. C'est un fruit qui pousse chez certains difficilement. Parfois, c'est même carrément absent. La paix, vivre en dehors d'une zone de conflit. L'absence de troubles et de violence. Faire la paix. Se réconcilier, vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, c'est une recommandation de la parole de Dieu. Aussi longtemps que c'est à vous, autant que ça c'est à vous, vivez en paix avec tout le monde. Et commence déjà avec les personnes qui te sont les plus proches. Et puis, un autre fruit, c'est la patience. C'est la vertu qui consiste à supporter les désagréments, les malheurs, et les défauts de l'autrui. Donc c'est très bien pour les personnes mariées. La patience. Et pour tout autre aussi d'ailleurs. C'est la qualité qui fait qu'on persévère dans une situation sans se décourager. Sans se décourager, je persévère. Et je ne me laisserai pas décourager. Je continuerai. Je resterai patient. Je ne fuis pas. C'est la qualité qui fait de rester fidèle auprès d'une personne, même si c'est parfois difficile. Et puis, il y a la bonté. C'est la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. C'est la bonté qui est le bien qui n'est pas pour moi, mais qui est pour les autres. Elle est d'une grande bonté. Vous l'avez déjà dit d'une personne? La bienveillance. Il s'agit là de la disposition favorable envers une personne inférieure à nous, inférieure en âge. Toi, tu es l'aîné, il y a quelqu'un plus jeune. Ou toi, tu es l'expert et l'autre, il est débutant. Très vite, on pourrait prendre par les qualités qui sont les nôtres, nos connaissances, les personnes qui sont inférieures à nous par le haut. Qui tu es, que tu me parles, que tu me regardes, pourquoi je devrais m'occuper de toi? Cherche-toi un autre. La bienveillance voit les personnes faible, plus faible que nous, pour leur faire du bien. Et puis, il y a la fidélité de ne pas trahir, avoir une constance dans ses affections, dans ses sentiments. On parle d'ailleurs de la fidélité d'un chien. Bon, j'ai un chat, donc c'est le contraire, n'est-ce pas? On parle de la fidélité d'un chien, mais on parle aussi de la fidélité conjugale. Donc, s'il vous plaît, ne confondez pas l'un avec l'autre. Soyez tout simplement fidèles par rapport aux promesses que vous avez données. Et d'ailleurs, la fidélité était, je crois, dans la liste de qualités que vous chercherez chez un ami. Il y a la douceur, une qualité qui se procure à nos sens un plaisir délicat, comme la musique, un parfum. Et le parfum, vous voyez, le dimanche, j'ai un geste que je fais que ce jour-là. Et il le sait, c'est à ce moment-là que je vais aller dans ses armoires à elle. Donc j'ai un armoire, un homme a un armoire, et les femmes ont des armoires. Vous savez, voilà. Parce que dans ses armoires, il se trouve un flacon de parfum. Et c'est un parfum qu'elle a depuis qu'on se connaît. Et étant donné que je change ma mouchoir aussi, je mets un peu de parfum dans un mouchoir. Et peut-être l'un ou l'autre, dans des moments ici où vous n'étiez pas bien, et je vous ai prêté mon mouchoir, vous l'avez ressenti. Ça sent extrêmement bon. Et mes enfants me disent, ça sent maman. Ça sent... Oui, ça sent ma douce Inc. Hein? Chacun de nous a ces moments de douceur. Voilà, ça peut être aussi la musique ou le toucher, tout ce qui est bien. Et puis, on lasse notre backlist, ou on dirait en français, dernier point, mais pas le moindre, la maîtrise de soi. Et là, franchement, je suis moyen chez les autres, hein, mais là, je suis très moyen, très très moyen, la maîtrise de soi. Je ne suis pas un homme discipliné. J'aime le confort, bon, ça se voit pas, manger et boire, tranquille. C'est la qualité de celui qui se maîtrise, qui sait se contrôler, qui sait maîtriser sa colère et maîtriser ses émotions. C'est le dernier point. C'est intéressant. Ça commence avec l'amour et ça se termine avec la maîtrise de soi. Ce sont des bons fruits. D'ailleurs, ceux qui connaissent ce passage, vont me dire, mais Olaf, tu te trompes pas là? Tu nous présentes là un cocktail de fruits différents? Oui, vous avez raison. Il ne s'agit pas de plusieurs fruits, mais d'un seul. L'esprit, le fruit de l'esprit, avec toutes ses composantes, tout ce qui va pousser avec. Donc, l'apôtre Paul conclut, si vous vivez dans l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Notre texte termine avec cette phrase qui sonne trop, trop belle pour être vraie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un qui plante sa vie près d'un courant d'eau, dans l'eau vive que l'esprit donne, il va non pas seulement fleurir comme un arbre, mais il va apporter ses fruits quand vient la saison. Et cette dernière phrase, elle est vraiment trop chouette. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous connaissez ça? Tout ce que vous faites vous réussit? On pourrait presque dire que c'est un passage mensongère. Hein? On a poussé un peu la pub, un peu trop loin là, hein, pour faire confiance en Dieu. Quoique, qui parmi nous n'aimerait bien pas réussir sa vie, connaître des succès, d'être vainqueur ou accomplir des exploits? Je pense là en particulier à deux personnes. Joseph, dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 3, de lui, il est écrit « Le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. » Tout ce qu'il entreprenait. Et plus loin, dans le livre de Daniel, dans les prophètes, chapitre 1er, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur. Et Joseph, il a refusé, il ne voulait pas, il a fui, il s'est éloigné au plus loin possible de la tentation du péché. Toutes ces personnes qui vivent selon ces principes de garder leur pureté et leur foi, Dieu leur accorde la réussite. Ils vont réussir. Et en terminant, en conclusion, toujours, c'est mon choix. Avez-vous bien choisi pour réussir votre vie? Avez-vous bien choisi pour réussir votre vie? Et est-ce que vous avez bien choisi votre manière de vivre, les qualités de la foi chrétienne, spirituelle, pour porter du bon fruit? Est-ce que vous avez bien choisi? Si on devrait vous identifier à cet arbre dont il est question dans ce psaume, où vous seriez planté aujourd'hui? Où vous êtes carrément planté dans votre vie? Vous êtes ailleurs, loin de la source qui vous donne la force et la capacité de réussir votre vie et porter du bon fruit. Les racines de votre vie, dans quelle source puissent-elles leur force? Quelles sont les valeurs morales? Quelles sont vos valeurs spirituelles qui influencent votre vie? À qui vous permettez de vous influencer avec des valeurs? Et d'après vous, est-ce possible de déplacer, déraciner un arbre pour le planter ailleurs, là où il y a une source qui donne la vie? En Allemagne, on dit: un vieil arbre, tu ne déplaces plus. Avec les jeunes, on peut encore le faire, mais un vieil arbre, tu laisses en place. La Bible dit: comme porte ton âge et comme porte où tu t'es planté. Reviens ou viens pour la première fois si nécessaire à la source pour que tes racines puissent aller en profondeur et nourrir ta vie pour que tu puisses te jouir des choses que tu aimerais bien voir se produire dans ta vie. Souhaiterez-vous, ressentez-vous éventuellement le besoin ce matin de donner à votre vie une nouvelle qualité? C'est peut-être choisir la source, la bonne, celle qui nourrit notre vie, qui donne à notre vie une nouvelle orientation et qui fait pousser dans notre vie le fruit que nous souhaiterons voir pousser. Amen.